Auditrices et auditeurs, bienvenue sur cette émission sur les livres et leurs auteurs. Une émission sur les livres, avec leurs auteurs, des livres qui réunissent le plaisir de la lecture à la réflexion théologique. Sébastien Fatt, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Fatt, la présentation qui est faite de vous sur la quatrième de couverture de votre dernier livre qui nous rassemble ce matin, Gospel et francophonie, aux éditions Empreintes, m'intrigue un peu. Vous êtes, Sébastien Fatt, ça nous le savons, chercheur au CNRS, rien à dire, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, tout à fait à votre honneur, et les auditeurs et auditrices pourront se reporter sur notre site radiofmplus.org, entre autres, pour en avoir la liste. Et vous êtes, nous dit-on, spécialiste de la francophonie protestante et de la géopolitique de l'évangélisme. Alors, je me suis demandé, mais c'est peut-être parce que c'est moi qui ne suis pas au courant de ce nouveau mot, c'est quoi l'évangélisme ? Je connais les églises évangéliques, les évangélistes, mais c'est vous qui l'avez inventé, ce mot-là, Sébastien Fatt, l'évangélisme ?
Oui, alors je comprends tout à fait votre perplexité, d'autant qu'il y a tellement de termes pour qualifier les différents courants protestants que il y a de quoi en perdre le peu de latin qu'on a. Alors, l'évangélisme, en fait, non, c'est pas du tout un terme que j'ai inventé. Hein, c'est un mot qui circule depuis une vingtaine d'années dans les milieux académiques. Je dirais que c'est tout simplement une alternative plus courte pour qualifier la même réalité qui est celle du protestantisme évangélique, c'est-à-dire un courant particulier du protestantisme, en l'occurrence un courant très majoritaire aujourd'hui dans le monde qui met l'accent particulièrement sur la conversion. C'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien, on le devient, et les églises évangéliques, pour la grande majorité d'entre elles, sont des églises de convertis, des associations de convertis. Et donc le protestantisme évangélique qualifie toute cette réalité, mais c'est deux mots. Et c'est des fois un peu long. Évangélisme, c'est plus court. Et donc voilà pourquoi de plus en plus aujourd'hui, dans les milieux académiques en tout cas, on parle tout aussi bien d'évangélisme que de protestantisme évangélique, mais je vous rassure, c'est la même chose. C'est pas une nouvelle dénomination protestante, non, c'est la même réalité.
Est-ce que le pentecôtisme fait partie de cette géopolitique de l'évangélisme ?
Oui, absolument. Oui, le pentecôtisme est né à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à partir d'un terreau principalement méthodiste, mais aussi avec des influences baptistes. Et il a grandi au sein, effectivement, du courant protestant évangélique, avec évidemment des accents particuliers qui sont liés, en l'occurrence, à l'action du Saint-Esprit. Hein. Les églises pentecôtistes se réfèrent à l'événement de la Pentecôte, aux manifestations miraculeuses du Saint-Esprit, telles qu'elles sont décrites dans le Nouveau Testament, et les pentecôtistes donc se singularisent au sein du mouvement évangélique, mais ils en font partie. Ceci dit, dans 20 ou 30 ans, il n'est pas exclu qu'on redécoupe un petit peu autrement les grandes catégorisations qu'on utilise actuellement pour décrire le christianisme, mais on n'en est pas là, en tout cas pour l'instant, et on peut dire que oui, les pentecôtistes, quels qu'ils soient, s'insèrent dans la mouvance évangélique.
Merci pour ces précisions, Sébastien Fatt. Alors, vais-je vous l'apprendre, mais sur FM Plus 91 FM à Montpellier, chaque jour est proposé un chant ou une musique gospel.
Ah, mais c'est formidable!
C'est formidable, n'est-ce pas? Et par ailleurs, Jimmy, notre animateur de gospel, propose une émission hebdomadaire depuis 10 ans maintenant. On a fêté ces 10 ans de présence à Radio FM Plus il y a un peu plus d'un mois. Donc le gospel, ce n'est pas quelque chose que nos auditeurs et auditrices ignorent. Et votre intervention est donc tout à fait opportune. Alors, l'histoire du gospel, vous nous dites, commence avec l'esclavage. La première phrase de votre livre, la première phrase de votre introduction, c'est « chose terrible qu'avoir été esclave ». Alors, comment est-ce que sont liées ces deux histoires, celle du gospel et celle de l'esclavage, Sébastien Fatt ?
Tout simplement parce que le gospel est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qu'il s'est appuyé sur ce qu'on appelle les Negro Spirituals, qui sont des chants d'esclaves. Ce sont des chants d'esclaves, des working songs, chantés dans les champs de coton, dans les usines du sud des États-Unis avant 1865. Et ces chants qui étaient au départ des chants simplement vocaux, hein, sans accompagnement d'instruments, qui étaient également des chants qui évidemment ne se produisaient les EHPAD directement dans les églises, ni a fortiori dans des salles de concert. Après l'émancipation, après la fin de l'esclavage, il y a eu une réinterprétation de ces chants dans d'autres contextes, avec l'apport d'instruments, et dans des congrégations, devant des salles très importantes, et de plus en plus des salles mixtes. Et c'est cette réinvention des spirituals, avec l'appui d'instruments et dans un cadre de congrégation, qui a donné naissance au gospel. Mais on le voit bien, l'origine, c'est vraiment la réalité d'une souffrance sociale épouvantable, qui est celle de l'esclavage et qui a été partagée par 12 millions d'Africains qui ont été vendus dans le cadre de ce qu'on appelle le commerce triangulaire et la traite atlantique. Et c'est dans ce contexte de douleur, de souffrance, qu'un cri s'est levé, que des chants ont monté vers le ciel, et ces chants, ces spirituals, ont donné naissance au gospel. Et donc encore aujourd'hui, même si bien sûr le gospel s'est petit à petit éloigné de cette proximité de l'esclavage, je crois qu'il faut constamment rappeler que ces chants ne sont pas simplement un divertissement destiné à nous réjouir à bon compte. Ils ont une histoire, ils s'inscrivent dans une théodicée qui est celle de la libération des esclaves.
Alors pourquoi est-ce que vous dites, Sébastien Fath, que cette musique n'est ni sacrée ni vraiment religieuse? Vous dites c'est une musique spirituelle. Alors il y a trois mots là: sacrée, religieuse, spirituelle.
Oui.
Ce sont vraiment à distinguer.
Oui, et effectivement, j'ai voulu préciser un petit peu les choses parce que dans la tradition française, qui est une tradition fortement marquée par le catholicisme, nous avons un vocabulaire particulier qui est lui aussi marqué par l'héritage catholique, et qui est un vocabulaire très très riche et très très éclairant, très très utile, mais qui en même temps n'englobe pas nécessairement toutes les réalités religieuses que nous étudions aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé en travaillant sur le terrain du gospel, c'est que justement on n'est pas vraiment là dans ce qu'on appelle musique sacrée, même si bien souvent par commodité on intègre les groupes gospel dans la catégorie musique sacrée. Pourquoi ? Parce que le sacré sépare. Le sacré est marqué par un principe de séparation. Alors que dans la musique gospel, il y a au contraire une perspective de mixité, d'échange, de partage, de mélange, une dynamique de créolisation qui n'est pas du tout dans la séparation. Et d'ailleurs, le principe aussi du gospel, il faut le rappeler, c'est que c'est pas généralement simplement une chorale qui se produit devant des auditeurs qui restent bouche fermée. La musique gospel est faite pour être partagée par la congrégation. Et donc il n'y a pas de séparation très nette entre des experts qui d'un côté seraient une sorte d'élite chantante mise à part, et puis d'autre part un public passif. Il y a vraiment cette dimension de partage, d'échange, et donc on n'est pas vraiment là dans le sacré. Et par ailleurs on n'est pas complètement non plus dans le religieux. Alors je m'explique, le religieux, alors on ne va pas entrer dans des débats trop techniques, mais globalement le religieux est quand même traduit par une dimension aussi institutionnelle. Il y a l'importance de l'institution, des structures mises en place dans le cadre des différentes grandes religions, avec également des dogmes, des appareils doctrinaux qui sont défendus par un clergé. Le gospel transcende tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas du tout une musique produite par des institutions. On l'a rappelé tout à l'heure, le gospel est vraiment l'émanation, au départ, de ces populations qui aspiraient à la libération, qui aspiraient à ce qu'on enlève leur chaîne, ces populations d'esclaves et d'esclaves émancipés ensuite. Et donc, c'est pas du tout le résultat d'une production institutionnelle. Le gospel est transversal, il est très horizontal également. Et ce qui fonde véritablement le gospel, c'est la relation avec la surnature, avec le monde invisible, celui d'un Dieu, le Dieu des chrétiens, qui est là pour libérer, qui est là pour pardonner, qui est là pour émanciper. Et donc il y a une dimension spirituelle extrêmement forte et qui circule dans toutes les confessions religieuses. Le gospel est très œcuménique. C'est pas du tout une musique qu'on peut enfermer dans une étiquette confessionnelle particulière. C'est très très œcuménique et, comme diraient certains chrétiens, l'esprit souffle où il veut. Et donc on est beaucoup plus dans la dynamique de la spiritualité que vraiment dans la dynamique de la religion proprement dite.
Alors vous l'avez dit, le gospel naît en Amérique suite à ce commerce triangulaire qui provient de l'Afrique, mais vous vous intéressez là à la musique gospel en francophonie.
Absolument.
Est-ce que vous auriez pu faire cette étude pour l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, que sais-je? Ou est-ce que c'est vraiment une pratique francophone?
Alors, je crois qu'il y a indubitablement une originalité francophone très importante, même si ça ne signifie pas qu'à la marge, il n'y a pas probablement quelques groupes gospel aussi italophones ou germanophones, mais il y a quand même une singularité française très très importante, pour une raison très simple qu'il faut rappeler et qui permet de comprendre aussi ce sillage tout à fait singulier du gospel francophone, c'est la réalité coloniale. Contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne, contrairement à beaucoup de pays européens, la France a des plus absolument gigantesques au XIXe siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle la seconde colonisation, avec une grande partie du continent africain en particulier, qui a été colonisée par la France. Et après le mouvement des décolonisations, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien des millions et des millions et des millions d'ex-colonisés ont continué à parler français. Et donc, à partir de là, il y a évidemment un terreau culturel, un terreau social extrêmement riche pour produire justement ce genre musical, pour contribuer à renouveler ce genre musical et à l'adapter dans l'espace francophone. Ce qui est très important de rappeler qu'évidemment, la francophonie, c'est bien au-delà de l'Hexagone. Et je crois que les Français, parfois, ont tendance un petit peu à oublier qu'il y a beaucoup plus de non-Français qui parlent français que de français. La francophonie hexagonale est très minoritaire au sein de la francophonie mondiale et il est important aujourd'hui d'élargir un petit peu notre horizon, de rappeler la vitalité extraordinaire des Caraïbes, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, ces productions musicales extraordinairement riches et qui contribuent aujourd'hui aussi à renouveler la scène culturelle française.
En effet, votre livre est très riche de l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Outre-mer, vous le disiez. Est-ce qu'on raconte les mêmes histoires dans le monde ultramarin que dans le monde africain? Les mêmes histoires dans ces chants gospel?
Alors, d'une certaine manière, oui, mais sous des angles différents. Pourquoi? Parce que, évidemment, les esclaves sont partis d'Afrique de l'Ouest. Ils ont quitté leur famille, leur clan, leurs espaces familiers pour être vendus comme des objets plusieurs milliers de kilomètres plus loin, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord. Et donc, d'un côté, évidemment, c'est la même histoire, mais qui est racontée d'une part en Afrique de l'Ouest sous l'angle du départ, hein, c'est la porte de non-retour, c'est l'angle de le revoir. Et puis évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, là c'est pas l'angle du départ, là c'est l'angle de l'arrivée, du déracinement, de la perte irrémédiable. Donc c'est la même histoire, mais racontée de manière différente. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, avec les dynamiques transnationales qui marquent aujourd'hui nos sociétés, avec la révolution numérique également, qui permet en temps réel de relier les gens à des milliers de kilomètres de distance, eh bien, ces histoires se rejoignent, s'entremêlent et produisent précisément les expressions contemporaines du gospel francophone. Et c'est tout à fait passionnant d'observer ces hybridations, parce qu'il n'y a pas d'un côté simplement un gospel caribéen, purement caribéen, et de l'autre un gospel qui serait purement d'Afrique de l'Ouest. Il y a évidemment des circulations, les artistes circulent. Prenons un simple exemple. Prenons l'exemple d'Anna Teko, qui est une chanteuse gospel béninoise, extrêmement célèbre, non seulement au Bénin, mais aussi dans les pays voisins. Eh bien, Anna Teko a également vécu quelque temps dans les Caraïbes. Elle a trouvé là aussi source d'inspiration. Elle a produit des textes, des chants dans les Caraïbes. Puis elle est revenue au Bénin. Mais il y a cette circulation. Il y a cette circulation transnationale. Et c'est aujourd'hui une réalité très importante. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement calfeutré derrière des frontières. Et ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui de parler, par exemple, d'un gospel strictement français. Il faut ouvrir les horizons, ouvrir la perspective et pointer notamment cette dimension qui est aujourd'hui étudiée par plusieurs géographes et qu'on appelle les territoires circulatoires. Alors, qu'est-ce que c'est que les territoires circulatoires? C'est l'idée qu'en fait, lorsque les gens aujourd'hui quittent un espace vers un autre, ils ne quittent plus juste un point A pour un point B et puis c'est terminé, puis ils s'installent ensuite et puis c'est fini. En fait, ils vont au point B et puis ils reviennent au point A et puis quelques années plus tard, ils repartent et ils reviennent, ça circule. Ça circule énormément. Et ça, on l'observe beaucoup au niveau des églises également, des pasteurs, des prophètes, et bien sûr des groupes de chants. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation, d'aller-retour, d'hybridation. C'est la réalité du monde du XXIe siècle dans lequel nous vivons. Nous ne sommes plus dans un monde cloisonné, mais un monde de territoires circulatoires. Et l'un des plus grands d'entre eux aujourd'hui, c'est le territoire circulatoire francophone, marqué en particulier par la vitalité du gospel.
Je vous propose un gospel plein de vitalité, celui de James Brown, notamment dans les Blues Brothers. En fait, nous sommes toujours ensemble pour évoquer gospel et francophonie, une alliance sans frontières. Et vous le précisiez juste avant d'entendre James Brown avec cette théorie des territoires circulatoires, ce qui est vraiment passionnant comme vision du monde, je trouve, et tellement réjouissante. Je voulais vous questionner sur l'aspect innovant de la musique gospel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va privilégier dans le gospel? Son aspect prédication chrétienne, protestante, culte, ou bien plutôt l'aspect musical? Où est-ce qu'elle porte l'innovation?
C'est très très varié en fait. Il faut voir si on parle du gospel d'Afrique de l'Ouest ou du gospel.
Oui. C'est vrai que vous mettez vraiment beaucoup beaucoup de différences dans tous ces gospels et votre livre regorge de détails. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir si les prédicateurs vont être premiers, finalement, avec cette musique en soutien, ou est-ce qu'au contraire, par exemple, vous citiez tout à l'heure cette béninoise, cette chanteuse béninoise, qu'est-ce qu'elle a à voir avec une prédication chrétienne? Voilà le sens de ma question.
Oui, alors ce qu'on peut souligner d'une manière générale, c'est que la très très grande majorité des groupes et des chanteurs vedettes insistent constamment sur le fait qu'on ne peut pas comprendre leur musique indépendamment du message chrétien qu'elle contient. Et ça, je crois que c'est très très important parce que nous parlons aussi dans un contexte franco-français ici, et du point de vue de la laïcité française, il y a parfois une certaine tendance à vouloir à tout prix dissocier ce qui est culturel de ce qui est religieux. Et on aura parfois tendance aussi à, disons-le clairement, à parler le moins possible de la dimension religieuse. Je pense notamment aux diverses expositions qu'on a l'occasion parfois de découvrir sur le pasteur Martin Luther King, où on nous parle de son militantisme en faveur des droits civiques, mais où parfois on a tendance à complètement oublier de mentionner qu'il était pasteur, fils de pasteur, petit-fils de prédicateur, et que son engagement chrétien était véritablement à la source de son militantisme. Donc on ne peut pas toujours strictement dissocier ce qui est culturel de ce qui est religieux. Et on pourrait dire la même chose d'ailleurs des crèches. Ça me paraît un peu aberrant de présenter aujourd'hui la question des crèches comme une question purement culturelle. Il est bien évident que les crèches ont également une signification religieuse. Alors pour revenir au groupe gospel, donc les groupes revendiquent constamment cette dimension chrétienne. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui les invitent recherchent une prédication recherche une présentation explicite du message chrétien. Hein, ceux qui les invitent cherchent parfois tout simplement une musique revigorante qui va plaire au public par son côté chatoyant, par sa dimension entraînante, par ses performances vocales, par son caractère spectaculaire. Mais le message chrétien, on n'a pas tellement envie qu'il soit présenté de manière explicite. Donc il y a ce contraste, hein, entre le souci des interprètes eux-mêmes, qui est très très majoritairement un souci de présenter le message chrétien, et puis les attentes du public, le marché culturel, je dirais, hein, qui lui, évidemment, a parfois d'autres priorités que la prédication et la présentation du message chrétien. Donc voilà, il y a un petit peu cette tension, et après, sur cette base-là, je dirais qu'il y a vraiment des contextes extraordinairement différents, parce que suivant que l'on parle de la situation française qui est marquée par la laïcité, et parfois par des formes de laïcité un peu dures, hein, sécularisantes, qui ont tendance à rejeter le religieux, et le contexte par exemple du Bénin ou du Congo-Brazzaville, où là au contraire, la foi chrétienne a pignon sur rue, et où il n'y a pas de séparation forte entre le culturel et le religieux, on voit bien que les situations sont extraordinairement variées suivant les pays dont on parle.
Vous évoquez aussi dans un des vos chapitres les passages à la télévision de groupes gospel qui détournent ces passages-là, qui détournent ce sens spirituel de ce chant, et en même temps la volonté pour ces groupes de gospel de se développer commercialement ou en tout cas d'une façon, comment dire, auprès d'un auditoire de plus en plus large. Là aussi, il y a quand même une tension qui s'exerce.
Absolument, c'est l'un des grands défis des pays et des groupes gospel aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a ce souci de présenter le message de l'Évangile, et en même temps, dans un contexte particulièrement en Europe où les publics sont souvent sécularisés, peu marqués par le christianisme, en tout cas par le christianisme pratiquant, pour atteindre tous ces publics, il faut évidemment faire un certain nombre de concessions et parfois passer sous les fourches caudines des organisateurs, hein, qui recommandent vivement de ne pas présenter le message chrétien de manière trop explicite. Donc effectivement, il y a une tension. C'est une vraie question qui est posée au groupe gospel aujourd'hui, hein. C'est un débat d'ailleurs assez vif, hein, à l'intérieur du milieu lui-même, du milieu du gospel. Jusqu'où peut-on aller pour élargir l'audience sans pour autant risquer de trop diluer ce qui fait la matière première de cette musique, en l'occurrence le message de l'Évangile. Et c'est une question ouverte, hein, évidemment, il n'y a pas une manière de répondre suivant les groupes, suivant les contextes, les voies choisies sont différentes. Alors après, au-delà, je dirais qu'il est important de rappeler une chose, c'est la précarité économique de ces groupes. Ces groupes sont souvent marqués par une très grande précarité dont on ne se rend pas toujours compte. Lorsqu'on va dans de grandes églises assister à ces extraordinaires performances de chorale gospel très, très impressionnantes, on est à première vue marqué par une certaine luxuriance, par un côté absolument flamboyant, hein, disons-le. Derrière la réalité des belles robes des choristes, il y a parfois des squats, des choristes sans papier, qui ont du mal à manger 2 repas par jour, qui vivent parfois dans des difficultés tout à fait importantes, qui fréquentent des églises d'immigration dans les banlieues, qui ont les plus grandes difficultés à se réunir dans des conditions décentes. Et cet aspect-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on assiste au concert. Et c'est pourtant une réalité. Et du coup, effectivement, les organisateurs d'événements, mais surtout les groupes eux-mêmes, cherchent au maximum, évidemment, à viabiliser cet art, à permettre aux choristes de vivre un petit peu mieux. Et ça n'est pas simple du tout dans un contexte où actuellement, en tout cas en France, pour l'instant, il n'y a pas de politique publique en direction de ces groupes. Autant dans d'autres domaines, on s'aperçoit que les politiques sont sensibilisées à encourager telle ou telle production culturelle, hein, et je pense notamment à la création de l'Institut des cultures d'Islam à Paris, qui est une excellente chose, hein, qui permet de mettre en valeur les cultures d'Islam et de sortir un peu d'un certain misérabilisme dans le regard qui est porté sur les régions parisiennes. Il n'y a pas du tout d'équivalent actuellement pour les cultures gospel. Il n'y a pour l'instant pas de sensibilité politique qui s'intéresse réellement à ces groupes et qui cherche d'une manière ou d'une autre à leur permettre de viabiliser leur trajectoire. Et du coup, et ça c'est un point qu'il faut rappeler aussi, dans l'étude des groupes gospel, il y a énormément de groupes qui se créent, mais il y a aussi beaucoup de groupes qui disparaissent. Et sur YouTube, par exemple, quand on regarde sur Internet les productions des groupes d'Afrique de l'Ouest, il y a un cimetière numérique de groupes gospel qui est tout à fait considérable. On se rend compte qu'en l'espace de quelques années, beaucoup de groupes ou beaucoup de chanteurs disparaissent, tout simplement faute de moyens financiers.
Il y a un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est le gospel, certes, c'est une musique spirituelle, mais votre dernier chapitre s'intitule « Le gospel, une nouvelle fierté noire francophone ». On touche là à la politique, Sébastien Fatt.
Oui, effectivement, nous vivons dans un contexte d'exacerbation des identités. On s'en rend bien compte au travers des résultats électoraux successifs qui ont marqué la société française ces dernières années, avec notamment un certain parti d'extrême droite qui rassemble aujourd'hui un quart de l'électorat en France, et d'autres leaders politiques de partis plus traditionnels qui cherchent parfois un petit peu à surfer, je dirais, sur la vague des identités. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, les productions culturelles à la mode reflètent un petit peu les tensions du moment, mais il y a de multiples manières de le faire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en étudiant la musique gospel, c'est de réaliser petit à petit que là, nous avons vraiment un vecteur de réconciliation des identités, qui met à la fois en valeur une certaine fierté afro-caribéenne, c'est tout à fait évident, hein, il y a de nombreux référentiels issus de l'histoire particulière de l'Afrique et des Caraïbes au travers de cette émancipation d'une part de l'esclavage mais aussi de la colonisation. Donc il y a une revendication, une fierté, mais en même temps cette fierté est pacifique, cette fierté est bienveillante et cette fierté est inclusive. Quand on regarde comment sont composées les chorales gospel en France, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande mixité. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le cas majoritaire. Il y a une grande mixité à la fois dans les chorales, mais aussi dans les publics. C'est pas nous contre les autres, c'est nous avec les autres. Il y a vraiment un accent sur la réconciliation, y compris la réconciliation d'ailleurs, et ça il faut le souligner, entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a un certain contentieux entre les deux rives de l'Atlantique, hein, qui est lié au poids de l'histoire. Dans l'imaginaire des Caribéens, les Africains d'Afrique de l'Ouest sont ceux parfois qui les ont vendus aux marchands d'esclaves. Et donc il y a une tension, une certaine tension culturelle. Or, le gospel cherche à bâtir des ponts. Il n'est pas là pour développer les cloisons. Il est là, au contraire, pour inclure, pour réconcilier. Et le clip vidéo gospel Bondi et Wo, qui a été primé au Angels Music Award de 2015 et qui rassemble Jessica Dorsey et Melina Anjani, est tout à fait exemplaire de cette dynamique inclusive, cette dynamique de pardon, puisqu'en fait, c'est un chant gospel créole tout à fait magnifique, avec d'ailleurs une vidéo extraordinaire, hein, que j'invite les auditeurs à regarder. Ce chant intègre la chanteuse phare, je dirais, du gospel caribéen, Jessica Dorsey, et une très grande chanteuse gabonaise, Melina Anjani. Donc les deux rives de l'Atlantique sont réunies, et l'accent principal de ce gospel, c'est la réconciliation. C'est le fait qu'il est important de pardonner, il est important de tourner la page et de regarder l'avenir ensemble. Et donc cette fierté noire particulière qui se manifeste au travers du gospel, c'est une fierté qui a un certain nombre de spécificités, inclusives, tournées vers la réconciliation. Et je crois que du point de vue socio-historique, il ne faut pas hésiter à souligner que s'il y a spécificité dans cette offre-là, c'est qu'elle s'ancre dans un certain nombre d'éléments de l'évangile.
Merci,
il faut quand même rappeler aussi le fond du message, hein, il n'est pas tout à fait anodin dans cette histoire. Le fond du message chrétien, tel qu'il est véhiculé par le gospel, c'est quand même que le pardon l'emporte sur l'offense. Et c'est ce qui est rappelé par tous les groupes gospel qui se produisent sur la scène francophone aujourd'hui.
Vous êtes intarissable, Sébastien Fatt. On invite tous ceux qui vous ont écouté avec attention, on les invite à se reporter à votre livre « Gospel et francophonie, une alliance sans frontières » aux éditions Empreinte, un livre disponible dans toutes les librairies de l'Hexagone et de la francophonie. Au revoir, Sébastien Fatt.
Merci beaucoup, merci beaucoup.